RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous en direct du Havre au terme de la sixième étape du Tour de France remportée tout à l'heure par un coureur de la formation Etix Quickstep, en l'occurrence Stibar le Tchèque, mais la formation Etix Quickstep va probablement pleurer du rire aux larmes pour l'équipe de Patrick Lefebvre, car Tony Martin, vous le savez, le maillot jaune de ce Tour de France a été victime d'une chute et il y a de fortes suspicions de fracture de la clavicule. Il vient même de tweeter que sa clavicule était cassée, on en saura un peu plus dans les minutes qui viennent, et tous nos envoyés spéciaux nous diront tout dans quelques instants, ainsi que la Dream Team, Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc, qui vont me rejoindre dans un instant pour évoquer évidemment la malédiction du maillot jaune. C'est la deuxième fois depuis le début de ce Tour de France qu'un maillot jaune est jeté à terre et peut-être contraint à l'abandon après Fabienne Cancellara. De tout cela, on en parle dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure de la deuxième édition du Journal des Sports avec Guillaume Lagnel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Christophe, et tu en parlais à l'instant, donc la victoire pour le Tchèque Zdeněk Stibar lors de la sixième étape du Tour de France. On a vu la chute, évidemment c'est une image marquante de Tony Martin, le maillot jaune, pas d'incidence au classement général. Mais le maillot jaune qui a annoncé qu'il s'était cassé la clavicule ne devrait pas reprendre la course demain. Et puis pour la première fois, un coureur érythréen a endossé le maillot à poids de meilleur grimpeur du Tour de France. Il s'agit de Daniel Teclé-Emanot et je vous propose d'écouter à ce sujet le français Perrick Kemener.
Mais c'est bien pour la mondialisation. L'Érythrée, c'est un super pays de vélo. On avait Nathanaël Béran dans notre équipe l'année dernière. C'est des mecs extra et ils méritent amplement ce maillot.
Perrick Kemener avec Pierre-Yves Leroux.
RMC Wimbledon 2015.
On passe au tennis avec le tournoi de Wimbledon. La finale dames, on vous le rappelle, opposera Serena Williams qui a dominé Sharapova. L'Espagnole Muguruza, 21 ans seulement, est tombeuse aujourd'hui de Radwanska. On file à Londres rejoindre notre envoyé spécial Eric Salio. Salut Eric.
Salut.
On voulait évidemment parler de l'événement de demain, cette demi-finale entre Richard Gasquet et Novak Djokovic. Quelles sont les dernières infos à Londres, Eric?
Écoutez, Richard s'est entraîné non pas à Hangi Park, qui est le centre d'entraînement où vous pouvez jouer en couleur, mais sur les cours de compétition de Wimbledon. C'est un petit privilège sur le cours numéro 11. Et il y a une petite inquiétude au niveau de Richard Gasquet, puisque on a bien vu pendant sa séance d'entraînement, quand le t-shirt se soulevait, qu'il y avait des bandes strapantes au niveau des abdominaux. Et on a bien senti aussi qu'il ne forçait pas ni au smash, ni au service. Et quand on a interrogé Sébastien Grosjean, il nous a regardé en nous prenant presque pour des fous. Non, il y a une petite blessure, il y a aussi un bobo à l'épaule, donc et un au pied. Donc je suis pas sûr qu'il soit à 100% demain pour affronter Novak Djokovic, et ça c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce que déjà à 100% c'était pas gagné.
Oui.
Si vous êtes pas à 100%, c'est quasiment mission impossible.
Ce sera difficile, et ce sera, merci Eric, la deuxième demi-finale de Richard Gasquet à Wimbledon. La première date de 2007. Alors quels sont les ingrédients à mettre demain pour créer l'exploit? Écoutez l'avis du dernier finaliste français à Wimbledon, Cédric Pioline.
C'est pas un petit match d'un dimanche champêtre entre copains, c'est une demi-finale de Grand Chelem, donc oui, il faut qu'il apprécie le moment, c'est sûr, mais il va falloir c'est la guerre contre le numéro 1 mondial, donc il va falloir qu'il soit conquérant, qu'il soit agressif, qu'il vraiment il aille de l'avant pour se dire je peux gagner ce match et je vais tout faire pour le gagner.
Cédric Pioline au micro d'Eric Salio. En football, il y aura bien deux montées et deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2 dès la saison prochaine. Décision prise ce matin par le conseil d'administration de la Ligue. Une décision qui pourrait provoquer une cassure entre les clubs pro, puisque les clubs de Ligue 2 auront deux possibilités de monter en Ligue 1 et trois de descendre à l'étage inférieur. Et puis autre décision marquante ce jeudi, celle du conseil d'État qui a annulé l'accord à 50 millions d'euros entre la LFP et l'AS Monaco. Le club monégasque peut donc conserver son siège social hors de France tout en bénéficiant de ses avantages fiscaux. Et puis la France qui perd 13 places au classement FIFA, les Bleus reculent à la 22e place. Conséquence, ils ne seront pas tête de série lors du tirage au sort des groupes des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. L'athlétisme pour conclure et le meeting de Lausanne, deux événements à ne pas rater sur RMC. Tout d'abord à partir de 19h50, le concours du saut à la perche avec trois Français dont Renaud Lavilloni. Et puis à 22h17, 100 mètres extrêmement attendu qui mettra aux prises Tyson Gay, Asafa Powell et Justin Justin Gatlin, 19h12 sur RMC. Je te repasse la main, Christophe, pour la suite de l'Intégral Tour.
Effectivement, merci Guillaume, à plus tard. L'Intégral Tour qui se poursuit jusqu'à 21h comme tous les soirs sur RMC, 6h de direct consacré au Tour de France, 6ème étape donc de ce Tour de France qui s'est achevé tout à l'heure, juste avant 18h ici au Havre, après une étape plutôt tranquille, mais une étape qui s'est bien accélérée dans le dernier kilomètre avec, on vous le rappelle, la chute de Tony Martin. Tony Martin, le maillot jaune de ce Tour de France, qui était à la bagarre pour éviter de prendre des cassures, pour éviter de perdre du temps sur ses rivaux au classement général, et qui malheureusement a chuté. On va en parler avec Cyril Guimard, avec Luc Leblanc et avec Thierry Bourguignon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Voilà, Luc Leblanc va nous rejoindre, mais Luc Leblanc est dans tous états.
Oui, ses bonsoir.
États parce que sa fille vient de réussir le bac, et là, c'est quand même la première fois dans la famille. Ouais. Quoi. Non.
Oh, et on peut pas. Moi, j'ai été meilleur apprenti cuisinier de France. J'ai choisi ma voie, j'ai réussi quand même.
Mais t'as pas eu ton bac. C'est,
pour réussir dans la vie, on n'est pas forcément obligé d'avoir le bac.
Et ben, en tous les cas, c'est bien. On l'a fait.
Tu as des artisans et tout ça, des bouchers, tout ça, qui ont eu leur CAP, qui ont fait une très belle carrière.
Pourquoi elle a passé son bac alors?
Comment?
Bon.
Oui, mais j'ai pas dit que ça servait
à rien. Ok, très bien, bravo.
Pas grand chose.
Merci Christophe, merci à tous, c'est gentil. Merci, on boira le champagne tout à l'heure.
Dans une famille, c'est très bien.
T'envoies une bouteille,
non, en plus, ton fils l'avait déjà eu.
Mais oui, mais Alexis, il passe en deuxième année d'école de commerce et tout.
Quelle famille de génie. C'est incroyable comme on peut faire des génies alors que, bon, au départ.
Dans génie, il y a gêne.
Arrête, parce que tu vois, je suis debout, je vais t'en mettre une.
Oh,
c'est moi qui vais faire l'émission.
Lucho, il y a déjà un maillot jaune par terre, c'est bon.
Voilà. Un maillot jaune par terre, effectivement, Thierry, tu le disais il y a quelques instants. Alors, Fred est avec nous. Fred qui a regardé, qui a visionné image par image ce qui s'est passé dans cette chute. Évidemment, dans le direct, c'était pas évident de voir ce qui s'était passé. Fred, alors, que s'est-il passé dans cette chute et que sait-on de l'état de Tony Martin?
Alors, on était dans la dernière côte de la journée, pas répertorié au classement de la montagne, mais qui pourtant était censé faire la différence à l'approche de ce sprint ici au Havre, à 800 mètres de la ligne d'arrivée, dans la petite montée ici sur les hauteurs du Havre. Tony Martin, qui était aux alentours de la 10e position dans ce peloton sur la gauche, l'extrême gauche de la route, a touché avec sa roue avant, a touché la roue arrière de Brian Coquard, qui se préparait à aller jouer la victoire sur cette 6e étape. Il a touché la roue et donc a été déporté. Il a fait un écart et il a emmené sur sa droite, il est venu s'affaler, s'écrouler sur Warren Barguil, le breton de l'équipe Giant Alpecin. Et là, c'est l'effet domino. Martin qui touche Barguil, qui tombe sur Nibali, qui tombe et qui manque de faire tomber Christopher Froome, qui est obligé de déchausser alors qu'on est dans la montée. Derrière, c'est venu s'empiler. On a vu Nairo Quintana à terre, un coureur de l'équipe BMC. Il me semble que c'est l'Italien Quinziato. Voilà comment ça s'est passé. On supputait, on se demandait pourquoi Tony Martin était tombé à cette vitesse-là et à cet endroit-là. Eh bien, il a touché la roue de Brian Coquard, qui en rien n'est fautif. Brian Coquard qui a gardé sa ligne, c'est simplement un fait de course, et dans les côtes, spécialement quand ça ne va pas à bloc, il y a plus de chances de toucher les roues. Bilan, clavicule fracturée pour le maillot jaune.
Ouais, c'est confirmé à l'instant même par la formation Ectix Quickstep. Déjà, Tony Martin l'avait annoncé il y a quelques instants par un tweet.
Les images parlaient d'elles-mêmes. Quand on se touche la clavicule et qu'on laisse le bras à l'équerre, le bras gauche, comme c'était le cas pour Tony Martin, qui n'a pas pu mettre les deux mains sur le cintre et qui a dû être aidé par trois équipiers de la formation Ectix Quickstep, ça ne faisait guère de doute. Eh bien, le diagnostic médical nous confirme ce que l'on craignait. Ouais. Fracture de la clavicule pour Tony Martin.
Merci beaucoup Fred pour toutes ces informations qui arrivent en direct, hein, puisqu'on vous le disait, la formation Quickstep vient de communiquer là-dessus. Clavicule cassée, même si Tony Martin n'a pas officiellement abandonné. Cyril, on a déjà vu par le passé des coureurs disputer le Tour de France, continuer le Tour de France avec une clavicule cassée. Il me semble un coureur américain, Hamilton.
Il y a quelques fissures, je pense.
Hamilton qui avait une pseudo-fracture de la clavicule.
On n'a jamais su exactement ce qu'il en était.
Il disait qu'il avait une fracture de la clavicule et il a même poursuivi. Il n'avait pas le maillot jaune, mais il a remporté une étape via le fameux col de Bagargui au Pays Basque.
Alors, Cyril, est-ce qu'on peut disputer le Tour de France, continuer comme ça plusieurs jours avec une clavette en bandoulière?
Non, mais si elle est franchement cassée, je vois pas très bien comment il peut continuer.
Ouais, c'est quand même une grosse douleur.
Alors, effectivement, le problème d'Hamilton, c'était aussi dans une autre vie, ça.
Fissure, je pense. Loin
d'être d'ailleurs, fracture. C'était pas la clavicule, c'était pas l'omoplate.
Oui, t'as raison.
C'était l'omoplate, oui.
C'est pas la clavicule.
Mais non, je ne vois pas très bien comment on peut continuer avec une fracture de la clavicule, même si elle est sans déplacement. Enfin, les images que nous avons vues quand même de Tony Martin après sa chute, remonter sur le vélo, à aucun moment il n'a bougé son bras. À aucun moment il a même esquissé la possibilité de mettre sa main sur son guidon, et qu'il n'a réussi à rallier la ligne d'arrivée que poussé par 4 équipiers. Alors je vois pas très bien comment demain il pourrait faire 190 km de course entre Livaro et Fougères. Le seul qui a réussi cet exploit, il a gagné le Tour d'Italie. C'est le menteur espagnol, comment on l'appelle déjà, Contador, qui nous explique qu'il a une luxation de la clavicule quand il sort de l'hôpital, et le lendemain il pilotait le vélo. Or, avec une luxation de la clavicule, vous ne repartez pas non plus le lendemain. Donc, moi, je ne crois pas au fait qu'il puisse repartir demain avec une... En plus, ça ne serait pas prudent, ça ne serait pas sérieux.
Bien sûr. Bien sûr. Thierry, tu confirmes une clavicule en moins, c'est pas possible. Hein,
déjà,
de toute façon, ça servira à rien.
La fracture, il y a l'énergie qui part pour réparer ça. Et puis, si on veut vraiment réparer, il faut bloquer. Donc, y a en aucunement, je vois le maillot jaune repartir.
Alors, c'est la deuxième fois depuis le début de ce Tour de France qu'un maillot jaune est victime d'une chute. Après Fabienne Cancellara, il y a de cela quelques jours. Cancellara qui a abandonné ce jour-là, lorsque la course a été neutralisée. C'était en direction du mur de Huy. Deuxième fois qu'un maillot jaune est contraint à l'abandon.
Sur le même tour.
Sur le même tour, c'est quand même assez rarissime.
En une semaine, en plus.
Cyril.
Ça
arrive évidemment que des maillots jaunes soient victimes de chute. Est-ce que les maillots jaunes sont plus sujets au risque que d'autres coureurs du peloton
Je ne le pense pas, sauf qu'on en parle beaucoup plus et qu'on s'en rappelle.
Voilà, exactement.
C'est toujours le phénomène un petit peu de ce qu'on retient dans ce qui se passe dans la vie et sur le Tour de France, ceux qui sont en position de leader ou des champions de notoriété, on va en parler 5 fois, 10 fois, 100 fois plus qu'un autre coureur qui lui-même aura... Si on prend par exemple, vous prenez Thomas Vauclair, il a les deux clavicules, il n'y a que des plaques d'acier autour.
La clavicule, c'est Luc, une blessure assez, assez fréquente pour les coureurs cyclistes.
Oui, c'est vrai que c'est assez fréquent chez les coureurs. Ça dépend de la façon dont tu tombes, mais ça arrive fréquemment. Et même, on n'a pas besoin de tomber lourdement, rapide, que ce soit à grande vitesse, même à 15-20 à l'heure, tu tombes, tu peux te casser la clavicule. Moi, ça m'est arrivé, mais à l'entraînement, malheureusement. Mais ceci dit, c'est vrai que chaque jour qui passe sur le tour, c'est vraiment, c'est de surprise en surprise, et on peut s'attendre à tout.
Thierry, la poisse quand même pour Tony Martin, mais que venait-il faire dans cette galère, parce que maillot jaune, il était quasiment assuré de le conserver. Là, il est à la bagarre dans la montée. Fred nous explique, tout à l'heure comment ça s'est passé. Mais est-ce qu'il prend pas un peu trop de risques sur ce coup-là?
Tu sais, regarde, si tu regardes bien, tous les leaders étaient autour de lui aussi.
Ouais.
Donc tous les leaders sont placés devant.
Il fait tomber Bargui, il fait tomber Nibali et Froome s'en sort de justesse.
Ils essaient d'éviter les chutes, et pour éviter les chutes, à l'avant on n'est pas trop mal, puisque malheureusement c'est lui qui touche une roue, parce que généralement quand on arrive dans la difficulté et qu'on se met peut-être en danseuse, on a tendance certains à reculer un tout petit peu. Est-ce que Cocard a un peu reculé et il a pas fait un moment d'inattention, il a touché la roue et ça fait l'effet domino, hein. C'est clair, mais pour moi, je pense pas qu'il était à sa place. Voilà, c'est tout.
Tiens, Bernard est au 32-16, il nous appelle. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Christophe, bonsoir messieurs.
Bonsoir Bernard. Bernard, tu considères, d'après ce que je lis sur ma fiche, que les coureurs prennent trop de risques avant la montagne, c'est ça ce que tu veux nous dire?
Bah ouais, ça fait beaucoup, encore demain ça va être pareil avec le dernier virage, là, le dernier rond-point à mon avis, ça va encore aller goûter du bitume. Bon, la seule chose c'est que Pinot revient à 6-18 quoi.
mais à ce rythme-là, il peut peut-être gagner le tour.
Non, mais il revient à 6-18.
Je blague.
Bien sûr, par rapport à Froome, mais c'est l'écart qu'il avait ce matin sur Froome.
Oui, parce que Tony Martin, de toute façon, n'était pas là pour remporter le Tour de France. Hein,
Ouais, vous dites, qu'est-ce qu'il faisait là? Il faisait le train pour Cavendish. De toute façon, lui, il a aucune... Martin, il pensait pas emmener le maillot jaune à Paris. De toute façon, il montait à Plumelec et puis il passait le week-end à Pau avec. Et puis c'est bon, il rendait...
C'était l'objectif, hein?
Non, ouais, c'était ça, quoi. Il courait pour Cavendish.
Il avait fini demain, son boulot sur Cavendish. Donc il avait fini son boulot puisqu'il avait roulé juste avant, du moins entraîné, et il était dans la route de ses équipiers qui emmenaient Cavendish.
Il était à sa place,
moi je pense.
Ouais, il touche Coquart et puis il fait un strike et puis il y a Barguil qui est pris dedans aussi.
Ah, et Barguil est le premier touché, c'est lui que Tony Martin envoie au sol, et par effet de domino, Nibali tombe et Chris Froome s'en sort de justesse. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Merci Bernard d'être venu au 32-16. À bientôt sur.
J'ai toujours une analyse. Il y a toujours une chute à l'arrière. Que voulez-vous?
Chute à l'arrière.
Là, l'accent il vient d'où là?
Ah bah je suis pas loin. L'ami Lucho, dimanche, pique-nique à 2 kilomètres de l'arrivée s'il veut.
Voilà qui vient à Plumelec.
Le souci c'est que comme c'est un contre-la-montre et que ça va être à 2 kilomètres de l'arrivée, il va y avoir les barrières. Comment je me gare?
Tu
vas à pied. Non mais
il y a une buvette juste avant. Il y a une buvette avant.
Si j'ai bien compris, vous êtes breton et vous avez l'accent du côté de Quimper.
Si tu fais ce qu'il faut pour
me garer, il y a pas de souci. Tu mets la banderole Lucho mobile et puis je me gare. Et tu fais les spécialités bretonnes. Attention. Hein.
Oh bah je sais pas. On verra.
Il est difficile en plus. Merci tous les cas Bernard de s'occuper de l'état de l'estomac de Luc Leblanc qui est
C'est la Lucho mobile.
Il travaille même plus. Il envoie des SMS pour qu'on trouve pour lui.
Décrépitude. On va parler dans quelques instants. C'est que cette chute en domino a eu également des conséquences entre les leaders du classement général. Georges Quirino nous dira tout dans une petite minute. Cyril, si Tony Martin abandonne ce soir, est-ce que Chris Froome partira avec le maillot jaune demain matin? On sait que Martin a franchi la ligne d'arrivée avec le maillot jaune. Il s'est fait remettre le maillot jaune. D'ailleurs, image assez difficile à vivre parce qu'il est monté. Il avait vraiment la tristesse dans les yeux. Il est allé faire le métier. Il est allé se voir remettre son maillot, à serrer la main droite qui n'est pas blessée à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on lisait la tristesse sur son visage.
Très, très pâle.
Une fracture de clavicule, ça fait mal, hein, évidemment. Donc Chris Froome peut-être en jaune demain. C'est pour.
Bah, logiquement, oui. On a vu par le passé dans le cas effectivement d'abandon du maillot jaune, le nouveau maillot jaune ne pas porter par respect à celui qui l'avait perdu sur chute, ne pas le prendre. Alors c'était arrivé donc en 72 lorsque Luis Ocaña avait chuté dans la descente du Col de Monte, et donc Merckx qui se retrouvait maillot avait dit ça ce sont des choses qui sont déjà arrivées, mais là dans le cas présent logiquement, sauf accord avec l'organisation, enfin les commissaires et l'organisation, il pourrait ne pas partir avec. Mais logiquement, il part avec le maillot jaune.
Très bien. Notre excellent confrère Philippe Castel de France 3 nous rappelle qu'il y a 2 ans, Jean-Christophe Perrault s'était fracturé la clavicule et qu'il avait, rappelez-vous, tenté de disputer le contre-la-montre qui était en descente. Il avait rechuté dans la descente sur
le
mouillé. Et là, il avait abandonné, mais le matin, il avait tenté de s'échauffer, mais finalement, ça ne l'a n'avait pas fait. Merci Philippe pour cette information, de nous rappeler ça. Allez, 19h26 sur RMC, l'Intégral Tour, on revient dans un instant. On va parler donc des conséquences. Il y a de la tension, il y a de la friture sur la ligne entre les leaders du général. Et puis on va s'intéresser à Tekle Haimanot. Vous ne le connaissez pas? Bah si, vous avez appris à le connaître. C'est ce jeune érythréen, premier érythréen à participer au Tour de France et qui demain, lui, s'élancera avec le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour en direct du Havre ce soir à l'issue de la sixième étape du Tour de France, donc entre Abbeville et le Havre, une étape tranquille jusqu'au dernier kilomètre et donc cette chute qui a provoqué la fracture de la clavicule de Tony Martin et probablement son abandon. Ce n'est pas encore confirmé, mais vu l'état de la bête, vu l'état de Tony Martin, ce sera dur évidemment de prendre le départ demain. Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont avec moi et nous rejoint maintenant Georges Quirino qui est descendu de sa moto. Salut Georges. Alors Georges, on a évoqué il y a quelques instants la chute de Tony Martin avec un effet domino, c'est-à-dire que tout le monde est tombé et notamment pas mal de leaders du classement général. C'est le cas de Nibali. Chris Froome lui a évité de justesse la chute, mais Chris Froome et Nibali sont plus vraiment copains. En tous
si,
les
si,
cas.
Si, si, si,
si, ça va
si,
mieux.
Si. Ils sont copains, mais ils ont failli ne plus être copains du tout.
Du tout, d'accord.
Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est juste après l'arrivée. Donc Nibali est allé au sol, Froome a failli tomber, et en fait, dans le clan Astana, on croyait que c'était Chris Froome qui était à l'origine de la chute de Vincenzo Nibali. Donc il y a eu rapidement beaucoup de mouvements autour des bus Astana et Sky. Dave Brailsford, le manager de l'équipe Sky, est venu au bus Astana pour s'expliquer à l'arrière du bus avec Giuseppe Martinelli, le directeur sportif de Vincenzo Nibali. Et puis après, c'est Chris Froome en personne qui est venu au bus Astana, qui est rentré dans le bus pour aller s'expliquer avec Nibali lui-même. Alors en fait, ils ont regardé, c'est assez surréaliste quand même, hein, comme scène.
Ils sont tendus comme c'est pas permis. Quoi.
Et donc en fait, dans le bus Astana, Nibali et Froome, parce que Nibali était assez énervé, Nibali et Froome ont regardé la vidéo de la chute. Et puis Nibali a bien été obligé de constater que Froome n'y était pour rien. Froome qui ensuite est descendu tout sourire. Dave Brailsford qui nous a dit derrière, non, il n'y a rien du tout, vous inquiétez pas. Mais Vincenzo Nibali derrière est quand même descendu pour expliquer tout ce qui se passait aux journalistes. Et évidemment, il est venu nous donner de ses nouvelles et des nouvelles de ce qui se passait avec Chris Froome. Vincenzo Nibali, on l'écoute.
Je vais bien, je suis juste un peu touché au genou. On était roue dans roue, j'étais bien placé. Et puis j'ai cru que Froome m'avait touché et fait tomber. Alors j'étais énervé contre lui, mais il est venu dans mon bus après pour s'expliquer. On a regardé la vidéo ensemble et j'ai bien vu qu'il n'y était pour rien. Alors je me suis excusé. Vous savez, on n'est pas des footballeurs. On peut se réconcilier. On est des cyclistes.
Les footballeurs, ils en prennent plein la casquette.
Vincenzo, le requin de Messine. On n'est pas des footballeurs. Ça va leur faire plaisir.
Ça peut s'expliquer parce que il ne voit pas la chute venir de la gauche, et il ne voit que Froome avec lequel il va percuter.
Froome qui a fait l'acrobate sur ce coup-là et qui a évité la chute. Messieurs, merci Georges de ces explications. Ouais. On va tout de suite aller faire un tour, non pas à l'hôtel de la formation Actix Quick Step, même si Pierre-X Ten est là-bas, je l'appelle Pierre-X aussi maintenant, même dans l'émission. Non, on va à l'hôtel de l'équipe AG2R où se trouve Pierre-Yves Leroux. Bonsoir Pierre-Yves.
Bonsoir Christophe.
En compagnie du manager de la formation AG2R, Vincent Lavenue. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir. Vincent. Ce que je te propose Christophe, c'est de prendre tout de suite des nouvelles de l'équipe, parce que comme il y a des chutes à peu près toujours, savoir si ça va bien du côté de l'équipe AG2R ce soir.
Oui, ben non, moi je touche du bois, hein. En même temps je fais le geste, je touche ma tête. On s'en sort pas trop mal, parce que c'est vrai que depuis hier il y a eu beaucoup de tensions, notamment hier énormément de chutes. Aujourd'hui, bon, c'était beaucoup plus serein. Il y a cette chute en finale, évidemment, qui coûte la clavicule au maillot jaune. Mais nous, on n'a pas eu de dégâts, si ce n'est que Romain Bardet et puis Yann Backland se sont arrêtés sur la chute. Ils ont failli tomber, mais ils ont eu le temps de s'arrêter, donc pas de dégâts.
Ouais. Vincent, on se souvient de la chute de Jean-Christophe Perrault il y a deux ans, à quelques heures de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Une chute juste avant le contre-la-montre, je crois. Il avait tenté de s'aligner dans ce contre-la-montre, mais il avait à nouveau chuté. Avec une clavicule cassée, impossible de continuer le Tour de France, a priori. Hein.
A priori, maintenant, c'est vrai que Jean-Christophe l'avait fait, puisqu'il était tombé, lui, sur la reconnaissance du chrono entre Embrun et Chorges. Et l'après-midi, il avait pris le départ. Ouais. Il avait été strappé. Sa clavicule était cassée, sans déplacement, mais cassée complètement. Et il avait réussi à faire le parcours qui était pourtant un parcours extrêmement tortueux, exigeant et difficile. Et il avait surmonté la douleur pour aller jusqu'au bout du contre-la-montre presque, puisqu'il est tombé à 2 km de l'arrivée. Il lui était fatal finalement.
Vincent, incroyable nervosité dans ce peloton, c'est ce que tous les coureurs disent depuis quelques jours. C'est vrai que le parcours est particulièrement difficile, ça a été nerveux tous les jours, avec les bordures, avec les pavés, avec le mur de Huy, avec ces graves chutes. C'est de pire en pire, on a l'impression, dans le Tour de France, dans les premiers jours, surtout lorsqu'on vous propose un parcours aussi difficile finalement, hein.
Oui, mais c'est vrai qu'on a quand même l'habitude d'entendre ça tous les ans en disant que c'est de pire en pire, et c'est un petit peu vrai, mais tout dépend aussi du terrain de jeu qu'on propose aux athlètes, hein, bien évidemment. Et c'est vrai que sur ce Tour 2015, il y avait de nombreux pièges à éviter, hein. Dès la première étape déjà, le long de la mer du Nord, on savait que ça soufflait fort et que en plus il y a eu de la pluie et autres, donc il y a eu déjà quelques chutes ce jour-là, que c'était très tendu. Évidemment que les pavés de Paris-Roubaix qui étaient là dans le final de l'étape sont aussi sujets à apporter des inquiétudes aux coureurs. Et puis c'est surtout l'étape d'hier qui a été très piégeuse, très difficile, parce que les routes étaient très très étroites, il y avait beaucoup de pièges sur la route, de la pluie, des routes très glissantes. Voilà, je pense que hier, si on fait le compte des coureurs qui sont tombés, il y en avait au moins 80. Voilà, donc nous on s'en est bien sortis, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup beaucoup de stress, et je pense que les coureurs qui vont arriver dans les Pyrénées seront déjà bien fatigués.
Évidemment, et on n'est pas encore dans les Pyrénées, puisqu'il faudra attendre le début de la semaine prochaine. Le bilan donc après ces 6 jours de course, Vincent, pour tes coureurs, et notamment les deux leaders de la formation AG2R La Mondiale, on pense à Jean-Christophe Perrault, 19e au général à 2,19, et Romain Bardet 21e à 3,06. Est-ce que c'est un bon bilan? Est-ce que c'est un bilan moyen? Comment tu juges ces 6 premiers jours de course pour ton équipe?
Alors, un petit peu comme d'habitude, on a du mal à mettre en route, hein, notre équipe. C'est malheureusement une habitude récurrente d'année en année. Là, ça a commencé par un contre-la-montre qui nous a pas vraiment été favorable, même si Jean-Christophe, lui, sur ce contre-la-montre, s'est plutôt rassuré. Romain était très déçu. Et puis, au fur et à mesure des jours, disons, on a perdu un petit peu de temps dans la première étape. Et finalement, de jour en jour, ça va mieux. Donc aujourd'hui, avec le classement, on va dire qu'on est pas très très loin du compte. L'objectif annoncé au départ, c'est-à-dire un coureur dans les 5, un coureur dans les 10 premiers au classement général, tout est encore envisageable aujourd'hui. On est dans le bon timing. Il faut plus perdre de temps, par contre, hein. Il faudra essayer ensuite d'accompagner les meilleurs de Tour de France dans la montagne. Je pense qu'on en a les capacités avec Bardet, avec Perrault et même Villermoz qui se débrouille très très bien. Donc pour le moment, on va dire que ça se passe pas mal. Il faut pas d'ennui jusqu'à la montagne.
Pas d'ennui jusqu'à la montagne. Il reste encore quelques étapes pièges d'ici l'arrivée dans les Pyrénées. Vincent, donc les objectifs restent identiques pour la formation AG2R La Madière. On a l'impression quand même que Jean-Christophe s'améliore petit à petit, montant en puissance, lui qui il y a quelques jours avant le départ de ce Tour n'était même pas sûr de prendre le départ. Là, ça, la forme revient quand même, hein.
Ouais, il faut faire attention à ce que Jean-Christophe dit, parce que voilà, lui il dit qu'il n'est pas prendre le départ, on n'était pas tout à fait d'accord là-dessus. Donc il a pas une nature très optimiste souvent, hein. Il voit les choses de manière un petit peu négative et il le sait, on en rigole d'ailleurs entre nous. Notre rôle à nous, c'est justement de le tirer vers le haut et de l'encourager et de l'enthousiasmer. Voilà. Par contre, c'est un garçon qui a des capacités physiques hors normes, bien évidemment. Ce qu'il a fait l'année dernière l'a prouvé, mais aussi il a des capacités pour se faire mal et durer très très loin dans la douleur, ce qu'il sait faire aussi. Donc je crois que sur ce début de tour, il s'est rassuré. Et on verra quel sera son niveau physique sur les premières étapes du tour. Mais moi, je suis pas vraiment inquiet. Il me semble qu'il s'améliore de jour en jour.
Très bien. Merci Vincent Lavenue d'être venu dans l'intégral tour et bon courage. On compte sur vous, évidemment.
Merci.
Hein, pour mettre le feu dans les Pyrénées. Bah... Hein. On veut voir
vous
des Français
compter sur nous.
Merci beaucoup.
On sera présent. Merci.
Merci. Merci Vincent. Vincent Lavenue, donc manager de la formation AG2R la Mondiale. Oui, finalement, ils s'en sortent pas trop mal quand même, hein, Cyril, les coureurs de la formation AG2R. On le disait, ils sont autour de la 20e place, à 2,19, 3,06. Bon, ce sera difficile de rééditer le classement général de l'an dernier, évidemment, mais c'est pas plus mal, c'est pas si mal en tous les cas, et c'est mieux que beaucoup d'autres formations françaises. Hein.
Tout dépend comment on voit le verre, à moitié plein ou à moitié vide.
Je sais que tu as tendance à le voir à moitié vide, toi.
Bon. Non, pas du tout, non. Mais pourquoi vous me portez... Non, mais attendez. Non, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être pire. car il s'est passé beaucoup de choses. Vincent en a parlé. Ça aurait pu être mieux aussi. Bon, on avait ce contre-la-montre où il l'a souligné, où Bardet n'avait pas été exceptionnel. Ce qui me semble, moi, relativement positif, malgré donc les circonstances et le temps perdu par Bardet ou par Perrault, c'est le troisième homme. Et lorsque je regarde cette équipe, et je me dis que c'est peut-être le troisième homme qui va être la révélation Villermoz. De ce tour, c'est Villermoz. Mmh. Alors c'est vrai, bon, il a perdu beaucoup de temps, mais je pense que il sera le Français avec
28e à 5,58 au général.
Comment ?
28e à 5,58 au général.
Oui. Je pense que avec Barguil, Villermoz va être la grande révélation de ce tour lorsqu'on va arriver dans la haute montagne, et ça j'y crois beaucoup.
Alors, est-ce que vous croyez, messieurs, également à la révélation de ce nouveau maillot à poids du Tour de France, Daniel Tekla Imanot, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, notre spécialiste en érythréen, c'est quand même Fred Adam qui nous a donné des cours.
Oui, notre africain de service.
Voilà, exactement. Donc, qui s'empare du maillot à poids rouge du classement de la montagne, est-ce que c'est une surprise,
Lutch? Ah bah, oui, c'est Lutch. Une surprise.
C'est une surprise pour toi.
Comment ça?
Au Dauphiné, il a fait quoi?
Oui, il gagne le classement de la montagne au Dauphiné.
Oui, mais enfin, bon, le Dauphiné, c'est pas n'importe qui.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais sur le Tour, c'est une surprise quand même.
Bah, c'est la première fois.
Mais de le prendre aussitôt. De le prendre aussitôt, c'est une surprise.
Ouais. Ah, il a bien manœuvré dans une échappée, marqué les points du départ.
Je l'ai découvert sur ce tour. Je sais qu'il avait fait meilleur grimpeur du Dauphiné. Mais bon, de là à prendre le maillot comme ça, à poids, sitôt sur le Tour, oui, pourquoi pas. Mais il va falloir qu'il se batte tous les jours alors.
Je pense que c'est maintenant ou jamais, hein, parce que.
Ouais, ça dépend.
Oui. Tu sais, quand les meilleurs vont se mettre en route dans les Pyrénées, dans les Alpes.
Oui, mais enfin, il peut très bien prendre des échappées en partant de loin, Thierry. Tu sais bien, tu sais très bien que les meilleurs grimpeurs du Tour, c'est pas forcément le meilleur grimpeur pur du Tour qui gagne le meilleur grimpeur.
Fred, c'est un vrai grimpeur, Tekla Imanot. C'est un vrai grimpeur de la classe de ceux qui vont se disputer justement le maillot à poids rouge dans les Pyrénées et dans les Alpes.
Non, ce n'est pas un pur grimpeur. C'est un coureur qui a des chevaux. D'ailleurs, il ressemble à un cheval, à un pur sang. Si, ses muscles, sa physionomie, sa physiologie sont très très racées. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2010 sur le Tour du Rwanda. J'avais entendu parler de lui parce qu'il avait fait ses classes au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, au siège de l'Union Cycliste Internationale. Et il venait disputer les championnats d'Afrique. Il avait remporté devant les Marocains, devant les Rwandais, devant ses copains érythréens et devant les Sud-Africains qui sont rompus aux joutes du cyclisme de haut niveau déjà. Il avait remporté les championnats d'Afrique sur route, en ligne, la course en ligne, le contre-la-montre par équipe avec ses copains érythréens, et puis deux jours après il y avait le Tour du Rwanda qui présente un certain niveau qui commençait. Il avait remporté une étape et remporté le classement final, et il m'avait sauté aux yeux, et je me demandais pourquoi il n'avait pas sa place dans une équipe européenne. Ensuite, dans la foulée, il a été stagiaire chez Cervélo. Il est passé pro chez Orica Greenedge, chez les Australiens. Il a eu des petits problèmes d'adaptation, mais aussi de visa, parce que vous savez que l'Érythrée a beaucoup de mal.
Le président érythréen ne veut pas que les sportifs érythréens quittent le pays. Parce qu'il y en a certains qui se font la main.
Voilà, si vous le prenez pas pour vous, je le prends pour moi. L'Érythrée est une dictature aujourd'hui. Et les sportifs érythréens, certains d'entre eux se sont volatilisés une fois qu'ils ont eu leur visa pour aller disputer une compétition en Europe. C'est arrivé comme c'est arrivé pour d'autres pays. Ce n'est pas le cas de Daniel Tekla Imanot, qui rentre au pays tous les ans, qui s'est marié cette année en tenue traditionnelle. Les images sont sublimes, elles sont sans doute visibles sur Internet. Daniel Tekla Imanot est le premier érythréen, le premier noir africain à disputer le Tour de France, en compagnie d'un de ses compatriotes dans l'équipe MTN Kubeka, qui lui est un pur grimpeur et qui lui va briller à mon avis en haute montagne. Il s'appelle Merawi Kudus, il a les jambes les plus fines du peloton.
Plus
c'est
que
une
celle de Chris Froome.
Oui, impressionnant.
Incroyable. Ouais. Et il y aura peut-être deux Africains avec des maillots distinctifs demain, puisque Chris Froome, on le rappelle, est aussi africain, hein, même si il a un passeport britannique, mais il est quand même, il est né en Afrique.
Il est kényan.
Il a longtemps habité en Afrique du Sud.
Il a grandi en Afrique du Sud. Sud et il a un passeport britannique pour être coureur cycliste.
Exactement. On va écouter Perry Kemener qui faisait partie tout à l'heure de l'échappée aux côtés de Daniel Tekla Menot. Il nous parle de ce coureur érythréen qui paraît-il est très sympa. On écoute Perry Kemener.
Je l'aime bien Daniel, je le connais depuis un petit moment, j'ai couru souvent avec lui et puis j'étais échappé au Dauphiné aussi où il était meilleur grimpeur. On va pas dire que je l'ai laissé faire les grimpeurs parce qu'il est nettement plus fort que moi au niveau du sprint, mais c'est bien pour la mondialisation. L'Érythrée c'est un super pays de vélo, on avait Nathanaël Béran dans notre équipe l'année dernière, c'est des mecs extra et ils méritent amplement ce maillot.
Voilà, maillot à pois rouge de meilleur grimpeur demain sur les épaules de Daniel Tekla Menot. Une petite conclusion, Cyril.
Alors, il a 26 ans, il mesure 1m88, il pèse 71 kilos. Et j'ai remarqué une chose d'ailleurs qui vient d'être confirmée, c'est que il va vite au sprint parce que sur les deux premiers classements de la montagne, il a quand même battu Van Bilsen qui les faisait. Ouais. Or, battre Van Bilsen, il faut savoir que Van Bilsen, c'est un des meilleurs sprinteurs belges et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Cofidis était allé le chercher pour emmener les sprints à Nasser Bouani et à chaque fois, il l'a carrément allumé.
Très bien, voilà donc la révélation, l'une des révélions de ce début de Tour de France, Daniel Tekla Menot, érythréen, maillot à pois rouge de meilleur grimpeur sur les épaules demain au départ de la 7e étape. On va en parler de cette étape qui arrive demain avec vous et les paris évidemment. Dans quelques instants, l'Intégral Tour qui revient toujours en direct du Havre.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour au soir de la 6e étape de ce Tour de France, donc qui a conduit le peloton au Havre, où s'est jugé l'arrivée de cette 6e étape. On vous rappelle l'information principale du jour, la chute dans le dernier kilomètre de Tony Martin, le maillot jaune allemand de la formation éthique Quickstep, qui souffre d'une fracture de la clavicule. Cela a été confirmé il y a quelques minutes. On va écouter tout de suite Patrick Lefebvre, qui est le manager de la formation éthique Quickstep, évoquer donc la malchance et la chute de son leader Tony Martin.
C'est très dur. En ayant le maillot jaune, on s'est battu pour ce maillot. On a pris la responsabilité pendant 2 jours. Et n'oublions pas que dimanche, il y a encore la montre par équipe où nous étions un des favoris. Et autrement, si tu perds Tony Martin, c'est un des grands moteurs de l'équipe. Les jours prochains de notre équipe sont un petit peu hypothéqués, naturellement. Si tu le perds sur le plan, sur la route, le plan sportif, tu peux encore vivre avec, mais si tu le perds d'une telle manière, je pense que c'est un coup très dur.
Voilà, coup très dur par la formation éthique, c'est Quickstep. Effectivement, Cyril, Lucho, Thierry, il y a le contre-la-montre par équipe dimanche. Sans Martin, c'est plus la même équipe, éthique Quickstep, alors qu'ils faisaient vraiment partie des grandissimes favoris de cette étape.
Oui, et puis sans Martin, effectivement, c'est le moteur. C'est-à-dire que vous enlevez le cheval de tête. Et d'autre part, ils n'ont plus de raison de se battre. Ils savent que sans Tony Martin, c'est pratiquement impossible de gagner l'étape. Sur le classement général, ils n'ont pas d'ambition particulière. Donc déjà, inconsciemment dans la tête, et on le comprend au travers des propos de Lefebvre, même dans la tête inconsciemment, ils y sont plus. Bon, ils vont le faire à fond, mais entre le faire à fond et le faire à fond avec l'objectif de garder le maillot jaune, on fait pas le même chrono à l'arrivée, c'est évident.
Voilà, donc l'information du jour, on ne sait pas s'il sera au départ demain, mais a priori on voit mal comment il pourrait être au départ de cette 8e étape qui va donc conduire le peloton de Livaro jusqu'à Fougères entre Normandie et Bretagne. Messieurs, alors Thierry, je ne sais pas si tu as regardé le profil de l'étape, mais bon là,
c'est plat.
Pour chercher de la bosse, il va falloir se lever tôt.
Il
n'y
a pas grand chose, c'est une bosse au départ.
Une petite bosse au départ, exactement, la côte de Canapville, et ensuite c'est tout plat. Donc là, autant aujourd'hui il y avait cette petite bosse à l'arrivée qui a provoqué le malheur de Tony Martin et de certains leaders, mais demain il y a rien. Demain donc, on va parier sur l'étape de demain parce que a priori c'est pour les sprinteurs. Et qui dit Paris dit Benji.
Les paris RMC Tour de France.
Bonsoir, bonsoir Benji.
Bonsoir messieurs.
Salut Benji.
Bon, alors, ce Stibar, on rappelle, vainqueur de l'étape, nous a quand même mis la panique. C'est la gamelle qui nous a mis dans la panique. Stibar, coéquipier de Tony Martin, qui, rappelons-le, a remporté l'étape. Stibar, personne ne l'avait pronostiqué, me semble-t-il, hein, malheureusement.
Non, malheureusement pour nous, parce que j'ai regardé après l'étape, la cote était à 40, donc pour la victoire de Stibar, donc 10 euros, 400 euros, ça nous aurait bien arrangé pour certains au niveau du classement, un classement toujours dominé par Bourgui. Luc Leblanc est reparti à zéro, tu es à zéro, tu n'es pas encore négatif mais tu es à zéro,
c'est déjà pas mal.
Et Cyril est négatif, il n'y a que deux hommes positifs, Bourgui et Lucho. Bourgui, tu as également le maillot vert sur les épaules.
Bourgui, je suis dans ta roue alors.
Ouais, non mais encore une étape et je te fais péter. Okay. Petit coup de bordure.
Alors demain étape pour les sprints massifs, Benji, j'imagine que on va retrouver le nom de Greipel tout en haut de l'affiche, peut-être celui de Sagan pas très loin et de Cavendish en troisième position, comme ça, non?
Tu as le trio, Christophe, mais dans le désordre, c'est Cavendish comme souvent avec les bookmakers.
Cavendish,
on le rappelle, les bookmakers sont anglais, donc forcément Froome et Cavendish sont régulièrement devant. En plus.
Non, alors rappelons qu'en début de tour on se moquait des bookmaker anglais qui faisait de Chris Froome le favori du tour.
Non mais attends, Christophe, le tour n'est pas arrivé.
Non mais d'accord. Mais enfin,
et attention, c'est le troisième maillot qui tombe.
Imaginez, toi, maillot jaune du Tour de France à l'issue de la première semaine. Non, personne.
Non, mais les autres le laissent jouer un petit peu.
Non, alors il faut pas les prendre pour des.
Il a failli un peu de plus. Il reste sur le bitume lui aussi.
Ouais, mais bon, justement, lui s'en est sorti à la différence.
Et un peu de pluie, il prend le point.
Bon, alors vos paris, les gars,
le point dans la figure dans le vide là.
Ok. Alors,
donc le favori c'est Cavendish 3,90, 4,20 Greipel, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Et derrière, Peter Sagan à 5. Moi, pour essayer de combler mon déficit, je suis obligé d'aller un peu après et je vais prendre Alexander Kristoff.
Tu vas prendre Alexander Kristoff. Donc.
Mais moi aussi, c'est pareil.
Ouais. Ben moi, je reste fidèle à Greipel. Jamais 203. Ouais, la troisième dans le tour. Eh oui.
Tu vas arrêter de regarder.
Eh oui, c'est ça, mon cher camarade. C'est le coup de bordure qui va vous mettre dedans.
Moi, je vais tuer mon Bourgui. Je vais te suivre sur ce coup-là.
Reste dans la roue. On va aller faire péter.
Non, mais
tous.
Le problème, c'est que Christophe est panique. Il est dans le négatif.
Non, mais de toute façon. C'est...
Mais non, mais Christophe, je te donne des conseils.
Il me regarde d'un air désespéré.
Non, mais attends. De toute façon, on termine toujours tous les deux, soit avant-dernier, soit dernier. Hein. Une année chacun. Non, une année chacun.
Oui, mais attention.
En plus, j'ai gagné une année. Tu n'as jamais réussi à faire.
Ouais, c'est vrai. Et Lucho,
Benji.
Quoi? T'as pris le maillot une fois?
Oui, j'ai pris le maillot.
Mais il faut le prendre le dernier jour.
Mais l'année dernière, j'étais bien parti.
Parti.
Et tous les ans, il gagne le prix de la combativité Cœur de Lion. L'autre chose, c'est l'essence.
C'est le plus important.
Le druide,
il est en train de regarder tout
là,
ça.
Là, il tourne le papier comme s'il savait conduire.
Et pourtant, il n'a pas eu son bac. Hein.
Ouais. Non, mais c'est à venir, non? C'est ça.
Oui, alors, moi, pour l'étape de demain, je joue le cave.
Ouais.
Et je voulais juste donner une petite information. Il semblerait que le règlement permette aux coureurs qui héritent d'un maillot jaune dans les conditions de celle d'aujourd'hui. oui, non, je suis rien. Il peut décider de le prendre ou de ne pas le prendre.
Oui.
Donc, mais ça change rien dans les pronostics.
Non, mais c'est une information que je donne.
Tu vas péter quand même.
Dans la musette du druide, il y a des informations, messieurs.
On connaît le druide.
Donc Cavendish pour
essayer de nous noyer.
J'en connais une autre qui va donner Cavendish, évidemment.
Évidemment, oui, je vais pas changer maintenant, même si.
Surtout que c'est demain qui gagne.
Oui, c'est demain qui gagne, exactement. Et puis peut-être une autre encore, mais bon. Déjà
moi,
demain.
Je te conseillerais Sean Yates.
Non, mais bon, ça suffit les faux conseils. Je prends Marc Cavendish, tu vas finir par en gagner
même. Non, écoute, je suis de tout cœur avec toi et on va avoir un cœur anglais demain.
Exactement.
C'est un vrai petit couple, en fait.
Ouais, hein, oui,
Jean-Louis Fulpin et Cyril Kima. C'est un couple qui se forme.
Ben, je t'ai plein.
Tu plains qui, Cyril?
Tu
plains qui,
Eugénie? Je sais pas.
Très bien. Allez, les paris, c'est terminé. Benji, tu reviens demain si t'es sage.
Salut, mon Benji.
Paris sportif, paris hippique, poker.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, alors il n'y a toujours pas d'informations officielles confirmant l'abandon ou non de Tony Martin. Il y a de plus en plus de rumeurs ici sur la zone technique, mais ce n'est pas encore officiel. En tous les cas, ça n'a pas été communiqué ni par Tony Martin, ni par sa formation Ethics Quickstep, évidemment. Dès qu'on a l'information, on vous la donne, mais a priori, ça devrait être l'abandon pour Tony Martin. Voilà, Virginie garde Lucho et Thierry. Moi, je pars avec Cyril. Nous sommes invités ce soir à dîner.
Oh, avec un amour.
Non, tous les trois, avec plein de monde. Plein de beau monde.
Tous les trois, avec plein de monde, donc pas tous les trois.
Il faut venir nous rejoindre. Tous les trois, rejoindre plein de monde.
D'accord, et bien, bon appétit
c'est
à tous.
Pas très loin de Paris. Mais...
Oui, ben, je me dépêche. Je serai là vers 22h. C'est bon. En attendant, on va beaucoup
demain,
parler,
Virginie.
Évidemment. Non. Non, Lucho, tu ne vas pas t'échapper comme ça. Tu vas rester là avec Bourgui et avec vous, surtout au 32-16 et sur Twitter, avec vos questions et remarques sur le hashtag RMC Life. On va beaucoup reparler évidemment de la chute du maillot jaune. Est-ce que Tony Martin va abandonner? Ça a l'air d'être parti pour ça. On aura sans doute la confirmation dans les minutes qui viennent. On ira aussi à Lausanne, la Ligue de Diamants d'athlétisme, avec la revanche attendue de Renaud Lavillenie. François-Xavier Châteaufort est sur place. Marie Zévan GP sera en studio avec moi. Puis on aura notre page foot avec le torchon qui brûle entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Bernard Caillazo, le président de Saint-Etienne, et Claude Michi, le président de Clermont, seront nos invités. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.